L'œuvre posthume d'Alain Kardec. Première partie. Biographie d'Alain Kardec. C'est sur le coup de la douleur profonde causée par le départ prématuré du vénérable fondateur de la doctrine spirite que nous abordons une tâche simple et facile pour ses mains savantes et expérimentées, mais dont la lourdeur et la gravité nous accableraient si nous nous comptions sur le concours efficace des bons esprits et sur l'indulgence de nos lecteurs. Qui parmi nous pourrait, sans être taxé de présomption, se flatter de posséder l'esprit de méthode et d'organisation dont s'illuminent tous les travaux du maître? Sa puissante intelligence pouvait seule concentrer tant de matériaux divers et les triturer, les transformer, pour les répandre ensuite comme une rosée bienfaisante sur les âmes désireuses de connaître et d'aimer. Incisif, concis, profond, il savait plaire et se faire comprendre dans un langage à la fois simple et élevé, aussi éloigné du style familier que des obscurités de la métaphysique. Se multipliant sans cesse, il avait pu jusqu'ici suffire à tout. Cependant, l'accroissement journalier de ses relations et le développement incessant du spiritisme lui faisaient sentir la nécessité de s'adjoindre quelques aides intelligentes et il préparait simultanément l'organisation nouvelle de la doctrine et ses travaux lorsqu'il nous a quittés pour aller dans un monde meilleur, recueillir la sanction de la mission accomplie et réunir les éléments d'une nouvelle œuvre de dévouement et de sacrifice. Il était seul. Nous nous appellerons Légion, et quelque faibles et inexpérimentés que nous soyons, nous avons l'intime conviction que nous nous maintiendrons à la hauteur de la situation si, partant des principes établis et des évidences incontestables, nous nous attachons à exécuter autant qu'il nous sera possible et selon les besoins du moment les projets d'avenir que M. Alain Kardec se proposait d'accomplir lui-même. Tant que nous serons dans sa voie et que toutes les bonnes volontés s'uniront dans un commun effort vers le progrès et la régénération intellectuelle et morale de l'humanité, l'esprit du grand philosophe sera avec nous et nous secondera de sa puissante influence. Puisse-t-il suppléer à notre insuffisance et puissons-nous nous rendre dignes de son concours en nous consacrant à l'œuvre avec autant de dévouement et de sincérité, sinon avec autant de science et d'intelligence. Il avait inscrit sous son drapeau ce mot « Travail, solidarité, tolérance ». Soyons comme lui, infatigables. Soyons, selon ses vœux, tolérants et solidaires, et ne craignons pas de suivre son exemple en remettant 20 fois sur le chantier les principes encore discutés. Nous faisons appel à tous les concours, à toutes les lumières. Nous essayerons d'avancer avec certitude plutôt qu'avec rapidité, et nos efforts ne seront pas infructueux si, comme nous en sommes persuadés et comme nous en donnerons les premiers l'exemple, chacun s'attache à faire son devoir en mettant de côté toute question personnelle pour contribuer au bien général. Nous ne saurions entrer sur des auspices plus favorables dans la nouvelle phase qui s'ouvre pour le spiritisme qu'en faisant connaître à nos lecteurs, dans une rapide esquisse, ce que fut toute sa vie, l'homme intègre et honorable, le savant intelligent et fécond, dont la mémoire se transmettra au siècle futur, entouré de l'auréole des bienfaiteurs de l'humanité. Né à Lyon, le 3 octobre 1804, d'une ancienne famille qui s'est distinguée dans la magistrature et le barreau, Monsieur Alain Kardec, Léon Hippolyte Denisard Rivail, n'a point suivi cette carrière. Dès sa première jeunesse, il se sentait attiré vers l'étude des sciences et de la philosophie. Élevé à l'école de Pestalozzi à Yverdon, Suisse, il devint un des disciples les plus éminents de ce célèbre professeur et un des propagateurs zélés de son système d'éducation qui a exercé une grande influence sur la réforme des études en Allemagne et en France. Doué d'une intelligence remarquable et attiré vers l'enseignement par son caractère et ses aptitudes spéciales, dès l'âge de 14 ans, il apprenait ce qu'il savait à ceux de ses condisciples qui avaient moins acquis que lui. C'est à cette école que se sont développées les idées qui devaient plus tard le placer dans la classe des hommes de progrès et des libres penseurs. Né dans la religion catholique, mais élevé dans un pays protestant, les actes d'intolérance qu'il eut à subir à ce sujet lui firent de bonne heure concevoir l'idée d'une réforme religieuse à laquelle il travailla dans le silence pendant de longues années avec la pensée d'arriver à l'unification des croyances. Mais il lui manquait d'éléments indispensables à la solution de ce grand problème. Le spiritisme vint plus tard le lui fournir et imprimer une direction spéciale à ses travaux. Ses études terminées, il vint en France. Possédant à fond la langue allemande, il traduisit pour l'Allemagne différents ouvrages d'éducation et de morale et, ce qui est caractéristique, les œuvres des Fénelon qui l'avaient particulièrement séduit. Il était membre de plusieurs sociétés savantes, entre autres de l'Académie royale d'Arras, qui dans son concours de 1831 le couronna pour un mémoire remarquable sur cette question. Quel est le système d'études le plus en harmonie avec le besoin de l'époque? De 1835 à 1840, il fonda dans son domicile rue de Sèvres des cours gratuits où il enseignait la chimie, la physique, l'anatomie comparée, l'astronomie, etc. Entreprise digne d'éloge en tout temps, mais surtout à une époque où un bien petit nombre d'intelligences se hasardait à entrer dans cette voie. Constamment occupé de rendre attrayants et intéressants les systèmes d'éducation, il inventa, dans le même temps, une méthode ingénieuse pour apprendre à compter et un tableau mnémonique de l'histoire des France ayant pour objet de fixer dans la mémoire les dates des événements remarquables et des découvertes qui illustrèrent chaque règne. Parmi ses nombreux ouvrages d'éducation, nous citerons les suivants. Plan proposé pour l'amélioration de l'instruction publique, 1828. Cours pratique et théorique d'arithmétique, d'après la méthode de Pestalozzi, à l'usage des instructeurs et des mères de famille, 1829. Grammaire française classique, 1831. Manuel des examens pour les brevets de capacité. Solution raisonnée des questions et problèmes d'arithmétique et de géométrie, 1846. Catéchisme grammatical de la langue française, 1848. Programme des cours usuels de chimie, physique, astronomie, physiologie qu'un professeur au lycée polymathique. Dictée normale des examens de l'Hôtel de Ville et de la Sorbonne, accompagnée des dictées spéciales sur les difficultés orthographiques, 1849. Ouvrage très estimé à l'époque de son apparition et dont, récemment encore, il faisait tirer de nouvelles éditions. Avant que le spiritisme ne vînt populariser le pseudonyme Alain Kardec, il avait, comme on le voit, su s'illustrer par des travaux d'une nature toute différente, mais ayant objet d'éclairer les masses et les attacher davantage à leur famille et à leur pays. Vers 1855, dès qu'il fut question des manifestations des esprits, M. Alain Kardec se livra à des observations persévérantes sur ce phénomène et s'attacha principalement à en déduire les conséquences philosophiques. Il entrevit tout d'abord le principe de nouvelles lois naturelles, celles qui régissent les rapports du monde visible et du monde invisible. Il reconnut dans l'action de ce dernier l'une des forces de la nature dont la connaissance devait jeter la lumière sur une foule de problèmes réputés insolubles, et il en comprit la portée au point de vue religieux. Ses principaux ouvrages sur cette matière sont le Livre des Esprits pour la partie philosophique et dont la première édition apparut le 18 avril 1857. Le Livre des Médiums pour la partie expérimentale et scientifique, janvier 1861. L'Évangile selon le Spiritisme pour la partie morale, avril 1864. Le Ciel et l'Enfer ou la justice des dieux selon le spiritisme, août 1865. La Genèse, les miracles et les prédictions, janvier 1868. La Revue Spirit, journal d'études psychologiques, recueil mensuel, commencé le 1er janvier 1858. Il a fondé à Paris, le 1er avril 1858, la première société spirite régulièrement constituée sous le nom de Société parisienne des études spirites, dont le but exclusif est l'étude de tout ce qui peut contribuer au progrès de cette nouvelle science. Monsieur Alain Kardec se défend à juste titre d'avoir rien écrit sur l'influence des idées préconçues ou systématiques. L'homme d'un caractère froid et calme, il a observé les faits et de ses observations, il a déduit les lois qui les régissent. Le premier, il en a donné la théorie et en a formé un corps méthodique et régulier. En démontrant que les faits faussement qualifiés des surnaturels sont soumis à des lois, il les fait entrer dans l'ordre des phénomènes de la nature et détruit ainsi le dernier refuge du merveilleux et l'un des éléments de la superstition. Pendant les premières années où il fut question de phénomènes spirites, ces manifestations furent plutôt un objet de curiosité qu'un sujet des méditations sérieuses. Le Livre des Esprits fit envisager la chose sous un tout autre aspect. Alors, on délaissa les tables tournantes, qui n'avaient été qu'un prélude, et l'on se rallia à un corps des doctrines qui embrassait toutes les questions intéressant l'humanité. Dès l'apparition du Livre des Esprits, date la véritable fondation du spiritisme, qui jusqu'alors n'avait possédé que des éléments épars, sans coordination, et dont la portée n'avait pas pu être comprise de tout le monde. De ce moment aussi, la doctrine fixa l'attention des hommes sérieux et prit un développement rapide. En peu d'années, ces idées trouvèrent de nombreux adhérents dans tous les rangs de la société et dans tous les pays. Ce succès sans précédent tient sans doute aux sympathies que ces idées ont rencontrées, mais il est dû aussi, en grande partie, à la clarté qui est un des caractères distinctifs des écrits d'Alain Kardec. En s'abstenant des formules abstraites de la métaphysique, l'auteur a su se faire lire sans fatigue, condition essentielle pour la vulgarisation d'une idée. sur tous les points de controverse, son argumentation, d'une logique serrée, offre peu de prise à la réfutation et prédispose à la conviction. Les preuves matérielles que donne le spiritisme de l'existence de l'âme et de la vie future tendent à la destruction des idées matérialistes et panthéistes. Un des principes les plus féconds de cette doctrine et qui découle du précédent est celui de la pluralité des existences, déjà entrevue par une foule de philosophes anciens et modernes, et dans ces derniers temps par Jean Reynaud, Charles Fourier, Eugène Sue et autres. Mais il est resté dans l'état d'hypothèse et de système, tandis que le spiritisme, en démontrant la réalité, éprouve que c'est un des attributs essentiels de l'humanité. De ce principe découle la solution de toutes les anomalies apparentes de la vie humaine, de toutes les inégalités intellectuelles, morales et sociales. L'homme sait ainsi d'où il vient, où il va, pour quelle fin il est sur la terre et pourquoi il souffre. Les idées innées s'expliquent par les connaissances acquises dans les vies antérieures. La marche des peuples et de l'humanité par les hommes des temps passés qui revivent après avoir progressé. Les sympathies et les antipathies par la nature des rapports intérieurs. Ce rapport, qui relie la grande famille humaine de toutes les époques, donne pour base les lois mêmes de la nature et non plus une théorie aux grands principes de fraternité, d'égalité, de liberté et de solidarité universelle. Au lieu du principe « hors l'Église, point de salut » qui entretient la division et l'animosité entre les différentes sectes et qui a fait verser tant de sang, le spiritisme a pour maxime « hors la charité, point de salut », c'est-à-dire l'égalité parmi les hommes devant Dieu, la tolérance, la liberté de conscience et la bienveillance mutuelle. Au lieu de la foi aveugle qui annihile la liberté de penser, il dit « Il n'y a de foi inébranlable que celle qui peut regarder la raison face à face à tous les âges de l'humanité. » À la fois, il faut une base, et cette base, c'est l'intelligence parfaite de ce qu'on doit croire. Pour croire, il ne suffit pas de voir, il faut surtout comprendre. La foi aveugle n'est plus de ce siècle. Or, c'est précisément le dogme de la foi aveugle qui fait aujourd'hui le plus grand nombre d'incrédules parce qu'elle veut s'imposer et qu'elle exige la diction d'une des plus précieuses facultés de l'homme, le raisonnement et le libre arbitre, l'Évangile selon le spiritisme. Travailleur infatigable, toujours le premier et le dernier à l'œuvre, Alain Kardec a succombé le 31 mars 1869 au milieu des préparatifs d'un changement de local nécessité par l'extension considérable de ses multiples occupations. De nombreux ouvrages qu'il était sur le point de terminer ou qui attendaient le temps opportun pour paraître viendront un jour prouver davantage encore l'étendue et la puissance de ses conceptions. Il est mort comme il a vécu, en travaillant. Depuis de longues années, il souffrait d'une maladie de cœur qui ne pouvait être combattue que par le repos intellectuel et une certaine activité matérielle. Mais tout entier à son œuvre, il se refusait à tout ce qui pouvait absorber un de ses instants aux dépens de ses préoccupations de prédilection. Chez lui, comme chez toutes les âmes fortement trempées, la lame a usé le fourreau. Son corps s'alourdissait et lui refusait ses services, mais son esprit, plus vif, plus énergique, plus fécond, étendait toujours davantage le cercle de son activité. Dans cette lutte inégale, la matière ne pouvait éternellement résister. Un jour, elle fut vaincue. L'anévrisme se rompit et Alain Kardec tomba foudroyé. Un homme manquait à la terre, mais un grand nom prenait place parmi les illustrations de ce siècle, un grand esprit, allaient s'y retremper dans l'infini où tous ceux qui avaient consolé et éclairé attendaient impatiemment sa venue. La mort, disait-il récemment encore, la mort frappe à coups redoublés dans les rangs illustres. Qui viendra-t-elle maintenant délivrer? Il est venu, après tant d'autres, se retremper dans l'espace, chercher des nouveaux éléments pour renouveler son organisme usé par une vie de labeur incessant. Il est parmi avec ceux qui seront les phares de la nouvelle génération pour revenir bientôt avec eux, continuer et achever l'œuvre laissée entre des mains dévouées. L'homme n'est plus, mais l'âme demeurera parmi nous. C'est un protecteur sûr, une lumière de plus, un travailleur infatigable dont se sont accrues les phalanges de l'espace. Comme sur Terre, sans blesser personne, il saura faire entendre à chacun les conseils convenables. Il tempérera le zèle prématuré des ardents, secondera les sincères et les désintéressés, et stimulera les tièdes. Il voit, il sait aujourd'hui tout ce qu'il prévoyait naguère encore. Il n'est plus sujet ni aux incertitudes, ni aux défaillances. Il nous fera partager sa conviction en nous faisant toucher du doigt le but, en nous désignant la voie, dans le langage clair, précis, qui en fait un type dans les annales littéraires. L'homme n'est plus, nous le répétons, mais Alain Kardec est immortel, et son souvenir, ses travaux, son esprit seront toujours avec ceux qui tiendront fermement et hautement le drapeau qu'il a toujours su faire respecter. Une individualité puissante a constitué l'œuvre. C'était le guide et la lumière de tous. L'œuvre sur terre ne tiendra lieu de l'individu. On ne se ralliera pas autour d'Alain Kardec. On se ralliera autour du spiritisme tel qu'il a constitué et par ses conseils, sous son influence, nous avancerons à pas certains vers les phases heureuses promises à l'humanité régénérée.